Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. Hein. Vous êtes tous partis en vacances, moi je suis resté tout seul. Ça va? Ouais? Bon, ben c'est bien. Je suis parti faire un petit tour dans un espace volcanique. J'étais pas trop rassuré. Parce que je me dis, si jamais le feu s'allume en dessous, nos pieds, eh ben on se verra plus. Non, il n'y a pas eu d'éruption volcanique, hein, vous tracassez pas. Les volcans sont éteints. Depuis, je sais pas, 5-6 000 ans ici, là, dans la région. Non, mais il n'y en a pas dans la région. Excusez-moi, je vais peut-être avoir un peu de difficulté à parler parce que l'altitude, eh ben, quelquefois, ça peut manquer d'air. Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais simplement saluer peut-être ceux que je ne connais pas parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de visages que je ne connais pas. Alors, soyez bénis. Hein, nous allons partager ces moments ensemble à travers un passage qui m'est très cher. J'en ai très peu parlé, mais qui correspond un petit peu à ce que nous avons entendu prophétiquement ce matin. De savoir nous abandonner entre les mains de Dieu, parce que quand Dieu nous appelle, je peux vous dire qu'il a certainement de bonnes intentions pour nous. Malheureux que nous sommes de dire « Bien, Seigneur, plus tard. » Après, laisse-moi un peu, encore un peu de temps. Alors que quelquefois, nous vivons dans une certaine médiocrité et des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, nous faisons perdurer notre malheur. Et lorsque le temps passe, lorsque nous répondons, comme nous l'avons entendu, lorsque nous lâchons prise, eh bien, on s'aperçoit que c'est une autre vie, c'est un autre monde que Dieu nous destine. Et ce matin, je voudrais lire un texte qui a été véritablement... Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui mon histoire, hein. J'avais 19 ans. Alors vous pouvez évaluer mon âge canonique aujourd'hui. Oui, je ne parais pas, hein. Non, je sais, tout le monde me le dit. C'est pour ça qu'ils veulent que tout le monde me laisse encore au travail. Mais bon, ben, je suis en retraite. Alors, donc, c'est simplement pour dire que un jour, le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur. J'avais donc été tout jeune. C'était dans la région d'Amsterdam, en Hollande. Et véritablement, j'ai reçu une parole que je voudrais vous traduire ou expliciter ce matin. Et cette parole, véritablement, eh bien, elle est ce que je suis aujourd'hui. Tout simplement, je me destinais à autre chose, naturellement. Et lorsque nous faisons le bilan avec Myriam, nous disons, mais le Seigneur, tu nous as donné une vie exceptionnelle. Ouais, exceptionnelle. Alors, on est parti tout jeune, Myriam était bébé quand elle s'est convertie. Non, un petit peu plus. Quand même. Et puis moi, j'étais tout jeune aussi. Hein. Et c'est vrai que par les circonstances, eh bien, nous nous sommes retrouvés. On avait une vingtaine d'années. Et on était véritablement choisis pour eh bien, annoncer l'Évangile. De différentes façons, d'ailleurs. Hein. Ça commençait tout petit. Ça commençait dans des petites œuvres. Après, dans des plus grandes. Ensuite, nous sommes venus dans la région pendant 20 ans maintenant, hein, qu'on est au milieu de vous. Et aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, même plus que ça, eh bien, le Seigneur nous a appelés à prêcher l'Évangile, c'est vrai, au milieu de vous, en assemblée, Saumur, Cholet, Angers, Saint-Nazaire, également Redon et Vannes. Mais aujourd'hui, les frontières ont été beaucoup plus élargie à travers les moyens qui nous sont donnés, à travers l'informatique, où nous pouvons aller dans toutes les parties du monde. Je suis missionnaire chez moi. Comprenez ? Oui, et c'est vrai. On est encouragé de connaître, de voir ce qui se passe. Des amis qualifiés, des frères et des sœurs qualifiés se sont joints à nous pour pouvoir entretenir depuis près de 18 ans. Eh bien, ce qui est Bible Espoir aujourd'hui. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que quand on est adolescent, ce qui était mon cas, ou jeune adulte, on ne sait pas. C'est vrai qu'on est préoccupé par ce que le Seigneur veut pour nous. La réussite matérielle, la réussite professionnelle, et la préparation, naturellement, à travers des acquis éducatifs ou tout simplement scolaires. Et puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Et je crois que le Seigneur, lui, sait très bien à l'avance. Et je le dis parce que je m'aperçois qu'il y a des jeunes ce matin. Alors je voudrais vous dire une certitude. Vous êtes seuls aujourd'hui et demain vous serez vieux. Ne craignez rien, vous n'y échapperez pas. Mais votre vie, soyez en souci d'associer Dieu et répondez à son appel. Il sait très bien ce qu'il nous faut. Vous savez le petit cantique? On ne chante plus beaucoup, hein? Monsieur le chef d'orchestre là-bas. Oui, mais c'est bien. Alors, je vais vous raconter une partie de mon témoignage, de mon histoire, que vous retrouvez sur le site d'ailleurs, dans la rubrique Pasteur. Voilà, vous trouverez aussi comment on s'est rencontré avec Myriam, ce qui n'était certainement pas évident dès le départ. Non, pas du tout. Parce que, bon, moi, j'étais à l'étranger, et puis Myriam était à Angers, et on a été réunis, contrairement à toute prévision, pour prêcher l'Évangile, pour faire un couple de pasteurs. Voilà. Et le Seigneur nous a rendus, nous a donné et nous donne encore le bonheur de le servir. Alors je vais vous lire le petit texte qui est tout simple et j'aimerais vous l'expliciter. À travers mon expérience, mais c'est l'expérience de chacun, parce que vous êtes venus, vous, d'une manière ou d'une autre, mais jamais pareil. Mais le Seigneur appelle. Alors, nous allons donc voir la question. Et je vous propose que nous lisions un texte que vous connaissez, qui passe inaperçu. C'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 17. J'ai intitulé notre message « Projet d'avenir ». C'est vrai, quand j'ai entendu confirmation par l'Esprit, eh bien, je me suis dit, ben voilà, c'est bien. Et je lis ceci, chapitre 29, verset 17. Et vous le connaissez, vous l'avez lu, il a peut-être nourri aussi vos espérances. Et il dit ceci. Jérémie, inspiré par Dieu, qui parle au peuple d'Israël, peuple Dieu que Dieu a suscité, qu'il a connu. Mais là, il y a une précision dans ce que l'on peut appeler l'élection divine des êtres, d'un peuple, d'un pays, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, en devenir d'homme. Alors, Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous connaissez le texte? Vous l'avez lu? Bien sûr. Je me souviens de ses premiers pas dans la recherche de Dieu, dans le contexte que je vous ai cité tout à l'heure. Et déjà dans mon cœur, il y avait une recherche de Dieu depuis tout enfant. Et il a fallu que je rencontre une jeune fille dans ce pays où j'y ai passé plus de 2 ans, en formation, en préparation pour une situation commerciale, pour que véritablement elle me parle de Jésus. Alors, le détail de cette histoire, vous la trouverez dans la rubrique Pasteur, c'est ce que je vous ai dit, hein, sur le bandeau du site Bible Espoir. Et je me souviens qu'à un moment donné, alors que je fréquentais, dans ces temps-là, conduit par cette jeune fille, hein, l'église réformée néerlandaise, où j'ai véritablement eu cette conviction que Dieu me parlait personnellement. Vous savez, Dieu ne fait pas des discours pour appeler des foules, hein. Non, il prend les uns, les autres, il nous connaît puisque c'est lui qui nous a fait, et il a déjà un trésor en réserve pour chacun d'entre nous. Ne vous posez pas la question. Ne doutez pas, finalement, de dire « Mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris ?» et tout ça. Mais Dieu va vous convaincre que c'est lui qui vous adresse cette parole. Je vous connais, je connais les projets d'avenir et d'espérance. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est un mot de bonheur. Hein. C'est un mot d'espérance. Où dans notre monde aujourd'hui, tout est renfermé et tout est dans un climat mortifère, hein, où il n'y a plus d'espoir, hein, où tout est gris. C'est ni blanc ni noir, mais c'est gris. Où les gens tâtonnent, où les gens cherchent dans les ténèbres, où les gens se posent mille et une questions de pourquoi. Eh bien, d'où ils viennent, ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils vont devenir. Et souvent, la conclusion, elle est terrible, hein, parce que nous allons mourir. Et Dieu nous appelle pour la vie. La vie ici-bas et la vie de l'autre côté. Parce que finalement, la vie ici-bas, c'est une préparation. C'est rien d'autre qu'une préparation. C'est une école. Et Dieu veut nous donner le meilleur. Il veut nous donner le plus beau. Je ne voudrais pas enjoliver mes propos, hein, pour dire, voilà, il y a ceci, cela, etc. Non, mais c'est une réalité parce que je peux en parler 53 ans après. Ouais, je peux en parler. Et nous sommes là des témoins. Des témoins de cette parole qui est une parole vivante. Je connais les projets que j'ai faits pour votre avenir et votre espérance et que j'ai formés. Et moi j'aime bien, parce que si on interprète personnellement ces paroles, que j'ai formées sur toi. Toi le garçon, toi la fille. Toi, l'homme, toi, la femme, toi, le vieillard qui arrive à la fin de ton existence, eh bien, je peux te dire que tout n'est pas fini. Je te dirais, même si tu as 85 ans, tout commence maintenant. Alors que quand on arrive à un certain âge, on dit, mais c'est fini, hein. Voilà. Mais non, la vie, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Elle est devant nous, la vie. Alors, il y a deux intentions divines qui apparaissent dans la Bible. Toute la Bible, c'est un message vivant, c'est un message d'espoir. Donc deux intentions, c'est consacrer et établir, ou établir d'abord et ensuite consacrer, c'est-à-dire mis à part. Voilà. Nous ne sommes plus pour nous-mêmes, mais nous sommes pour Dieu. Et lui va nous placer dans des circonstances où nous allons véritablement être tout pour lui. Moi, j'aime bien la parole de David quand il dit « Tu es mon souverain bien » dans les psaumes. Ah, ça, c'est quelque chose. Tu es mon souverain. Qu'est-ce que les hommes ont de... Quelle souveraineté peuvent-ils avoir? Le rugby? Le football? Et puis, le dieu des sports? Moi, je ne suis pas contre. Mais s'il n'y a que ça dans la vie, ou le travail, gagner de l'argent, avoir une maison, ceci et cela, mais... Ce sont des choses que Dieu ne va pas nous refuser. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il doit être mis en premier. Il a la priorité, il a la primauté, et c'est ça ce qu'il veut dans notre vie. Et s'il nous appelle, c'est qu'il sait que l'on va tenir. Il sait que on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont interférer dans notre, finalement, notre vie pour atteindre ce but que Dieu a placé devant nous. Alors, oui, je dis bien, consacrer, établir, et dans un usage, pour un usage, eh bien, exclusif. Eh oui, ça s'appelle consécration. C'est exclusif, c'est pour lui. Et c'est pas pour ça que nous allons être privés de notre liberté. C'est pas pour ça que nous allons être privés, eh bien, de toutes les choses que les hommes partagent sur la terre, parce que Dieu bénit le bon et le méchant, hein, vous le savez. Et tout est pour nous. Tout est à nous, dira Paul. Mais quand on donne la priorité à Dieu, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire, c'est que véritablement, nous avons plus que ce que nous avons, ce que les autres ont. Parce qu'ils ont tout, sauf le bonheur intérieur, la paix, la grâce. Alors que nous, nous avons tout, nous avons le Seigneur, mais il y a, je dirais, ce supplément, non, ce fondement essentiel, c'est que nous bénéficions de tout le reste. Nous avons tout, comment il est dit, avec un adverbe, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Eh oui. Donc, la première intention, c'est pour un usage exclusif. La deuxième intention, eh bien, a un sens d'ordonner les choses. Le monde est en désordre. Si nous conduisons notre vie nous-mêmes, c'est du désordre, excusez-moi. Même si vous avez, que vous faites ce qu'il faut, bien sûr. Mais ça va dans un ordre parfait. Et pour un sens d'ordonner selon son plan précis, comme nous avons, et je voudrais le relire, si vous permettez, dans Éphésiens chapitre 2, quand il est dit ceci, hein, vous pouvez vous contenter tout simplement d'écouter ce que je vais vous rappeler. Et là, c'est une belle parole. Éphésiens chapitre 2, quand il nous est dit ceci, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas un mérite, c'est pas un don, c'est pas une religion. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est gratuit. Et la grâce, c'est tout simplement, eh bien là, quelque chose de la grande générosité de Dieu dans sa bonté infinie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, la foi. Faites confiance, lâchez prise. La foi, c'est s'abandonner. C'est lâcher la corde qui nous enlace et qui véritablement nous retient loin de lui. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ne vous faites pas d'illusions. C'est pas parce que vous allez faire ceci et cela, que vous allez donner de l'argent, que vous allez ceci et cela. Ça, c'est des fruits, nous pourrions dire, de la foi, hein, pour aider les autres, etc., etc. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don. Vous achetez pas un don. On vous fait un cadeau, vous le prenez. Vous sortez pas votre portefeuille en disant « Combien je vous dois pour le don, le cadeau que vous m'avez fait ?» Parce que là, c'est un outrage. Ce n'est point par les œuvres. Vous pouvez bien vous débattre. Vous pouvez bien faire n'importe quoi, grimper au plafond, enfin faire des œuvres, et tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Ce n'est pas par les œuvres, enfin personne ne se nous glorifie en disant « Si j'ai réussi dans la vie, c'est grâce à moi. » Mais c'est véritablement une insulte à Dieu. Et nous sommes son ouvrage. Ne l'oublions pas. Je connais les plans que j'ai faits. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé, vous avez été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors nous allons voir un peu dans le sujet. Créé en Jésus-Christ pour les hommes, les bonnes œuvres créées, préparées d'avance. Tout est prêt. Tout est déjà préparé, il n'y a pas de problème. Je voudrais ajouter ceci, c'est que Dieu ne gaspille aucune des choses qu'il a amené à la vie. En disant tout ça c'est du surplus, tout ça, voilà, hein, ça ne sert pas à grand chose. Non, non, il ne les gaspille pas et il les a planifiés pour les ordonner, pour les mettre à son service et nous voyons pour notre bien, parce que nous allons en retirer finalement un bénéfice et également pour sa gloire. Et c'est souvent la vie et toujours. Eh bien là, un temps d'apprentissage et d'expérience. Il y en a des bonnes expériences, c'est ce que j'ai tenté de vous dire en introduction, des bonnes expériences avec Dieu, qui nous réjouit, où nous sentons qu'il y a comme un tressaillement lorsque nous nous convertissons, et même après, c'est rare, mais comme quelque chose où vraiment nous sommes transportés, ça dure pas longtemps, comme vous savez l'expérience de Paul, quand il a été ravi jusqu'au troisième siècle. Troisième ciel, excusez-moi. Mais c'est quelque chose qui est très fort. Au début de ma conversion, vraiment, j'ai vécu ça. Ouais. Ça a été, mais alors, quelque chose que je me... Et c'est comme si Dieu me disait, tu vas traverser des moments difficiles dans ta vie, mais je voudrais savoir, dès le départ, puisque tu as répondu à mon appel, que... Je suis là, je suis toujours avec toi, je serai encore avec toi quand il y aura des moments difficiles, tu te souviendras de cette expérience. Ça avait duré, je crois, trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, ou vraiment, comme le ciel qui s'ouvre au-dessus de mes yeux. C'était un samedi matin, il était 6h du matin, à Angers. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai vécu comme si j'avais été... Alors, je ne suis pas un mystique, hein, parce que ceux qui me connaissent, j'ai les pieds sur terre, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais ce sont des expériences où quelquefois, vous avez des grandes peines, mais vous avez des grandes joies avec le Seigneur. Et ça, il ne faut pas les oublier, parce que nous retenons souvent les peines. Eh bien, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vous réjouit. C'est le Saint-Esprit. Ne l'avez-vous pas vécu à un moment ou un autre de votre vie? Quelque chose de très fort. Et on aimerait ne jamais en sortir de ce moment-là. Moi, je sais quand... Et dans cette période-là, je disais au Seigneur, mais enfin il ne m'a jamais exaucé pour l'instant, « Seigneur, maintenant je voudrais que tu me prennes, je voudrais aller au ciel, parce que je n'ai pas envie de vivre sur cette terre, j'ai envie de te rencontrer tout de suite. » Bon, il avait certainement d'autres projets pour moi, la preuve, je suis là pour vous le dire. Oui, mais il y a des moments qui sont très forts. N'avez-vous jamais vécu ces tressaillements de joie, de bonheur? Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les mois, ça n'arrive pas toutes les années, ça n'arrive pas toutes les décennies, mais quand ça arrive, j'ai vécu cette expérience lorsque, ces dernières années, en l'espace de 4 ans, j'ai été opéré 5 fois. Et je me souviens, je voudrais le dire, parce que c'est aussi une expérience, j'ai formé les projets, je connais l'expérience, je t'ai donné de l'espérance. Et après l'opération, j'étais pas bien, hein. C'est vraiment amer. Et à un moment donné, vers les 10h du matin, dans ma chambre d'hôpital, alors que ça faisait mal, j'ai senti une présence qui était là, qui est venue auprès de moi, et ça m'a fait complètement sortir de ma souffrance. Mais alors comme quelque chose où je l'ai comme soulevé. Ça durait à peu près une demi-heure, et je pleurais de bonheur. Ah ouais, pourquoi Seigneur tu as permis ces situations? Pourquoi tu as permis ces interventions chirurgicales? Pourquoi tu as permis cela? Parce que j'ai toujours été en bonne santé. Et là, sur la fin de mon ministère pastoral en église, en responsable, eh bien tout arrivait. Et je me souviens, pour quelqu'un qui est au milieu de nous, qui m'a encouragé comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'entre vous. Je lui ai dit, tu sais, les hommes soignent, et c'est Dieu qui guérit. Dieu qui guérit. Et moi, j'ai pris l'option, en tant qu'humain, eh bien, de me laisser soigner par les hommes, mais j'ai choisi avant tout le protocole du Saint-Esprit pour me conduire à vivre plus longtemps. Le protocole du Saint-Esprit. Voici les projets que j'ai formés sur toi, projets d'espoir et d'espérance. Alors, je ne suis pas très vaillant aujourd'hui, mais une chose qui est certaine, c'est que je suis encore vivant par la grâce de Dieu. Pour vous annoncer encore ce témoignage ce matin, pour vous dire, ne perdez pas espoir. Des bons moments, mais aussi, eh bien, des temps d'apprentissage et d'expérience, des bonnes et des choses moins bonnes. Et rien dans sa création infinie de ce que je suis, de ce que vous êtes les uns et les autres, est absent d'un but et d'un objectif de grande valeur et de précision. Plus nous allons, plus nous voyons la main bénissante, la main guérissante, la main de la grâce de Dieu dans notre vie. Eh oui, et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, que vous grandissiez. Alors, celui ou celle qui essaie de se rattacher dans les moments de tempête, avec des cordages, laissez-vous aller sur le Nil. Ouais, le Nil qui vous emporte vers une destinée que vous ne connaissez pas. Et si c'est déjà ça sur Terre, qu'est-ce que ça va être dans le ciel? Là, il n'y aura plus tout ce que nous connaissons. Ça, c'est certain. Et Dieu nous prépare à ça. D'espoir et d'espérance, ce sont véritablement, c'est la volonté de Dieu qui sont, eh bien, un riche trésor, comme nous le chantons. Oui, la foi est un riche trésor. La foi est véritablement ce qu'il y a de plus ultime pour nous, sur la terre, naturellement. Et ça, c'est le choix divin. Dieu l'a choisi pour nous, parce qu'il est souverain dans tout l'univers. Ceux et celles, quel que soit leur âge, naturellement les plus jeunes, le mariage. Ah oui. Vous savez, le mariage, c'est heureux ou malheureux. Hein. Il peut y avoir un mi-temps, il peut y avoir un mi-terme, on pourrait dire, mais ce que Dieu, c'est vraiment le bonheur. Et moi, je pense que tous les gens qui se marient, ils s'aiment au départ. Et puis après, c'est peut-être différent. Puis il y en a qui s'aiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ils s'aiment parce qu'ils s'aiment en Jésus aussi. Ouais. Et c'est pas toi de changer. Moi, je change. Oui, parce que c'est un échange. On pourrait dire comme ça, de toute façon. Hein. Parce que des mariages heureux, on n'en parle pas. On parle que des malheureux. Et toute la société de consommation nous fait état de choses qui sont terribles par rapport au mariage. Des échecs, des tromperies, toutes sortes de choses qui sont abominables et qui vont contaminer nos enfants. Quand on voit dans quel monde on vit aujourd'hui, eh bien moi je dis qu'il y a des projets de bonheur et d'avenir pour les couples qui s'unissent dans l'amour et qui vont rester. Et l'amour, c'est pas quelque chose qui... Non, être amoureux, je l'ai dit, je le répète ce matin parce que je pense qu'il faut y aller. Être amoureux, c'est un sentiment. Aimer jusqu'à la fin, c'est véritablement un acte de volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Devant Monsieur le maire, on dit « Je t'aime pour un mois, je te prends un mi-temps, tiens, si tu veux. » Eh oui, mais c'est pas ça. Alors le mariage, les unions aussi. On s'unit pour différentes raisons, hein, ça peut être professionnel ou autre chose. Parce que Dieu connaît les origines de chacun d'entre nous. Et quelquefois, on se dit, ben oui, mais ils vont pas ensemble, c'est faux. Parce que moi, j'en ai fait des mariages. Et je peux vous dire qu'il y en a certains, ça partait bien. Et on s'est dit, mais il n'y a pas de problème. Et j'en ai vu d'autres, des fiancés, où on se dit, oh là là, oh là là. Et pourtant, ils sont encore ensemble. J'ai formé sur toi des projets de paix et de bonheur. Alors, dans la mesure où on reste attaché au Seigneur, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que c'est lui, hein, véritablement, le fondement de toute chose. Oui, il nous connaît. Il nous connaît bien. Notre enfance. Notre scolarité. Moi, je voulais faire autre chose avant d'être pasteur. Le Seigneur m'a dit, tu vas voir. Tu vas faire autre chose. Oui, voilà. Mais tu vas le faire, il va falloir que tu prennes une décision à un moment donné. En Hollande, j'aurais pu avoir une situation. Hein. Ça, c'est sûr, je le sais. Hein. Même peut-être en revenant en France. Ça, c'est fort possible. J'ai eu des propositions. Et il fallait que je romps. Il fallait que je choisisse. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est bien que les choses se soient passées comme ça. Quelquefois, nous avons aussi des rencontres, des occasions étonnantes et d'opportunités qui nous sont données, qu'on n'aurait jamais imaginées. Et c'est Dieu qui permet qu'il y ait la rencontre entre un tel ou un tel, etc., et qui nous ont poussés dans la vie. Eh oui, moi j'ai eu des responsables, parce que j'étais quand même dans le commerce, avant de rentrer dans l'œuvre de Dieu, tout en ayant des églises à gérer, et de dire, ben moi j'ai eu des, sur le plan physique ou même professionnel, j'ai eu des pères qui ont été très gentils avec moi. Je ne peux pas dire le contraire, ça c'est sûr. Et ça, ça a été permis qu'on se rencontre. Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais avec le temps, on s'aperçoit que ben, il fallait passer par là, et c'était bien. La vie est ainsi faite, hein, et c'est vrai que d'occasions étonnantes, d'opportunités, parfois sidérantes, en 40 et quelques années de ministère pastoral, tante dans la région d'Angers, quand même à Saint-Nazaire, à Redon, on a rencontré des gens extraordinaires. Moi, je vais vous parler en positif aujourd'hui. On a rencontré des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, des jaloux, des méchants, qui nous ont fait beaucoup de mal, qui nous ont fait pleurer aussi. Mais une chose qui est certaine, c'est que je ne vais pas me retenir ces gens-là. Moi, je ne leur en veux pas. C'est fini. C'est passé. Et on a vu comment ça s'est passé. Et comment, finalement, Dieu nous a sortis, finalement, de ces choses-là. Mais moi, on a vu des gens extraordinaires. Ah oui, qui avaient des possibilités, qui avaient là des choses qu'ils avaient reçues de Dieu et qu'ils partageaient avec l'Église. Et des gens qui étaient d'une grande bienveillance pour les pasteurs que nous étions. Ben merci Seigneur de nous avoir rencontrés. Ces gens, ils ont peut-être disparu. Moi, certains, ils sont au ciel maintenant. Parce que, bon, on était jeunes. Et ils nous ont véritablement et bien donné des leçons pour continuer à être fidèles au Seigneur. Et des leçons d'amour. Parce qu'ils n'ont pas regardé. Moi, jeune pasteur, quand je bafouillais dans une prédication, comme ma femme me disait souvent, mais tu parles à une vitesse que les gens ne peuvent pas comprendre. Une autre langue. Eh bien, tout ça, il y en a qui, véritablement, sont venus nous encourager en disant, écoutez, c'est bien. Parce qu'il faut tout apprendre, de toute façon. C'est un autre monde. C'est bien, vous nous avez fait du bien en disant, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir fait du bien. C'est pour ça que faites du bien. Et peut-être, de l'autre côté, vous retrouverez finalement, le bien que vous avez méconnu, que vous n'avez pas connu, mais que vous avez fait quand même. Parce que de l'autre côté, il va y avoir les livres qui vont s'ouvrir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ne faites pas le mal. Faites le bien. Et ce bien, il est instillé, il est inspiré par le Saint-Esprit à l'intérieur de vous-même. Il y a des gens qu'on ne va pas aimer directement, comme ça, avec tout ça. Mais en les connaissant, en connaissant leur vie, on va savoir que s'ils sont devenus peut-être un petit peu aigris, des choses comme ça, il y avait des raisons. Il ne faut pas les condamner, parce qu'ils ont aussi leur chemin. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Parce que de l'autre côté, on aura peut-être des drôles de surprises d'avoir été très dur, alors que le Seigneur vous avait mis peut-être à côté de ces gens pour qu'ils changent aussi. Ouais. Et si on les renvoie aux calendes grecques, ça ne va pas faire grand-chose. Hein. Oui, je dis bien. Des opportunités sidérantes, et c'est encore Dieu qui est notre Père, qui est notre Créateur, je connais. C'est toujours Dieu au-dessus, hein, d'accord? Qui va développer les capacités d'être et de faire. Être, c'est ce que je suis, c'est ce que Dieu veut que je devienne. Être, le verbe être, je suis. Et également, de ce qu'il a préparé, des bonnes œuvres, pour que je les accomplisse. Et les bonnes œuvres, elles sont dans le cadre, finalement, de l'esprit de l'Évangile. Esprit de l'Évangile, retenez ça. Et Jésus nous a donné le modèle parfait de ce qu'est l'esprit de l'Évangile à travers le sermon sur la montagne. Si vous voulez le relire, ne vous lassez pas de relire le sermon sur la montagne. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. Ça me fait grincer les dents. Et tant d'autres choses comme ça, hein, parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Il nous a donné des talents que je ne soupçonnais pas, des talents naturels, naturellement, mais des talents aussi qui sont d'origine spirituelle. Il nous a donné des goûts que nous allons pouvoir mettre au service de l'œuvre de Dieu. Il nous a donné des dons et des aptitudes extraordinaires et ordinaires. Et ne vous méprenez pas, eh bien, il y a souvent de l'extraordinaire dans l'ordinaire que nous ne voyons pas. Et c'est que nous ne comprenons qu'après, en disant, mais cette expérience, quelle qu'en soit la nature, mais c'était extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé ce matin à Redon, là, en arrivant sur Redon, je me suis réjoui, on s'est réjoui avec Myriam, on s'est dit, mais Seigneur, cette petite salle, eh bien, ça a été une aventure extraordinaire. On l'a vécu comme quelque chose d'ordinaire, parce qu'on était dedans, parce qu'on l'a pratiqué, parce qu'on a fait toutes les démarches les uns et les autres, on était enthousiasmés. Et quand je vois à côté de la rue Charles Silard, je me dis, Seigneur, On a quand même descendu d'un étage. Hein. Vous savez pourquoi? Et je me dis, mais Seigneur, tu es bon. Et nous, on a cherché pendant des années, à trouver une salle. Et ça s'est fait par le truchement d'un frère qu'on avait au milieu de nous, qui est maintenant dans la gloire, qui a réuni autour de lui, des hommes de pleine capacité. Et bon, y en a un qui serait content, et qui l'a vu. C'est mon cher Claude. Ouais, parce que c'est lui qui a ouvert cette salle. Ben, là, l'autre. Hein? Ouais. Notre cher Claude, le pasteur qui était avant. Ouais. Moi, j'étais heureux parce que quand il est parti, dans son grand âge, il a vu tout ça. Moi, je l'ai considéré comme un père spirituel. Ouais. Il était bienveillant avec nous. Hein. Et pourtant, on en a vu des choses. Hein. Il a toujours été à nos côtés pour nous dire, mais tenez bon. Tenez bon. J'étais pas bien. Parce que c'est ça, le problème de l'épreuve. C'est que tu n'as pas seulement des problèmes dans l'œuvre, mais tu as des problèmes avec toi-même, c'est-à-dire la santé. Mais bon, on se dit, la vie n'a qu'un temps. Et nous, nous allons vers l'éternité. Sans le mal. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Toutes ces passions, parce qu'on est, on reste encore des hommes, hein. Toutes ces aspirations dans ce plan d'avenir, vous les jeunes, si vous restez fidèles à Seigneur, si vous engagez, si vous lâchez prise, vous allez voir que le Seigneur a quelque chose de bien. J'ai donné un message dimanche dernier à Saint-Nazaire. C'est aimer la vie et le bonheur d'être heureux. Ouais, le bonheur d'être heureux. Aimer la vie et le bonheur d'être heureux, parce que ça existe. Moi, je ne vais pas prêcher un évangile, parce que je ne l'ai jamais prêché, je ne peux pas. Un évangile gris, un évangile en disant, vous devez marcher comme ça, vous devez marcher, pas autrement, parce que c'est comme ça que ça marche. Et Dieu vous attend avec un air de bœuf dans le dos pour vous bon, mettre sur la tête. Non, le Seigneur est notre Père. Pour ceux qui sont des croyants, simplement, Dieu est Dieu. Mais nous, il n'est pas Dieu. Il est plus que Dieu. Il est notre Rédempteur. Il est notre salut. Il est notre Père, tout simplement. Jésus va ouvrir l'Évangile dans Matthieu. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que pour les gens qui ont eu un mauvais père, naturellement, qui ont à se plaindre, finalement, de l'éducation, parce que, bon, c'était une éducation qui a été certainement et bien longtemps dans l'histoire des hommes, mais quelquefois où ils ont vécu des choses difficiles, hein. Des enfants battus, des choses comme ça. On sait très bien que c'est malheureux, pas tout le monde, hein, mais c'est malheureux, c'est parce qu'ils ont une vision du père, ça peut être de la mère aussi, qui est négative. Alors donc, ils ne peuvent pas avoir une bonne notion de ce Dieu qu'ils ne voient pas, puisqu'ils ont eu des parents qu'ils voyaient et qui les a maltraités. Alors Dieu fait les choses en douce, il se cache pour nous taper dessus. C'est faux. C'est faux. Alors nous avons appris tout ça avec des dispositions innées que Dieu avait mis dans notre cœur, et puis des dispositions également acquises que nous avons et que nous apprenons encore aujourd'hui, que Dieu suscite pour un temps, pour nous préparer dans l'avenir et s'en servir pour notre salut. Mais attendez, on n'est pas sauvé pour nous-mêmes, on est sauvé pour les autres aussi. C'est ce que nous faisons, c'est le but de notre rassemblement ce matin. On est sauvé également pour les autres, pour notre salut, pour celui des autres, et pour sa gloire, hein. En son temps, dans un temps déterminé, qui nous est favorable. Il y a des belles choses dans la Bible quand même, hein. Ah oui, 2 Corinthiens chapitre 6. Nous travaillons avec Dieu, nous sommes associés, il est notre maître souverain. Nous vous exhortons, 6 verset 1er, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce qu'elle a été donnée, c'est à nous de la recevoir. Il ne va pas nous forcer à la prendre, la grâce. Hein. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Il y a un temps, soyez patient. Où tout peut changer, dans peut-être vos marasmes, dans vos angoisses, dans toutes ces choses que vous vivez. Moi, je crois que ça change à un moment donné. Ça peut changer lentement, mais ça peut changer en un clin d'œil. Au jour du salut, j'étais secouru. C'est pas nous de déterminer le jour du salut, c'est lui qui le détermine. Mais nous savons une chose, c'est qu'il nous secourt. Il va nous secourir. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Mais écoutez, ce que vous entendez ce matin, saisissez-le comme le jour du salut. Un nouveau jour de salut. Ouais. Lâchez les amarres du bateau ou du panier d'osier pour qu'il s'en aille sur le Nil, vers le palais de Pharaon. Vous allez quitter l'Égypte et pour rentrer dans le pays de Canaan. C'est peut-être ce que nous pouvons interpréter, comme quelque chose de fortuit, quelque chose, un accident, où la conjonction de circonstances. C'est peut-être comme ça que nous pensions dans le temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Alors nous allons revenir sur Jérémie, et je terminerai sur cela. J'ai encore des choses à dire, hein, naturellement. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous allez m'invoquer, parce que la situation était particulièrement difficile. En ce qui concerne l'époque de Jérémie, le peuple d'Israël qui était depuis 60 ans, 70 ans, j'ai pas calculé, mais 70 ans en exil. Vous voyez tous les exilés qu'il y a dans le monde aujourd'hui ? On peut se donner une idée hein, de tous les émigrés et tout ce qui se passe. Eh bien, ils ne sont pas heureux. Hein, parce qu'ils passent d'un pays à l'autre, personne n'en veut. Et on les laisse mourir sur les bords des routes. Hein, quand on ne les noie pas, parce qu'il y a des gens qui sont infâmes, qui sont abominables, qui sont des criminels, qui sont des meurtriers. Et tout ça pour le dieu argent. C'est honteux. Pour vous donner un avenir, vous m'invoquerez, vous partirez. Moi, je vous mettrai au large. Je vous mettrai comme Isaac, et bien là, à Rehoboth. Vous savez ce que ça veut dire, Rehoboth ? Mise au large. Vous allez sortir d'Égypte pour rentrer dans le pays de Canaan. Vous allez sortir peut-être de votre situation, qu'elle soit professionnelle, peut-être sentimentale, affective, tout ce que vous voulez. On peut multiplier à l'infini, finalement, ce que les hommes connaissent sur la terre de douloureux. Mais moi, je vais vous donner la solution. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mes frères et sœurs, cette parole ce matin, elle est pour vous. Elle est peut-être pour quelqu'un en particulier qui se pose la question, qui a dit « Seigneur, parle-moi dimanche prochain ». Moi, c'est ce que je fais dans la semaine. J'en fais moins que j'en faisais dans le temps. Évidemment. Mais une chose qui est certaine, c'est que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ? Alors ça, tous les pasteurs se le disent le lundi matin. Qu'est-ce que je veux dire ? Je sais où je vais, je sais dans quelle église je veux prêcher, mais je sais, quelquefois, je ne sais pas quoi dire. Ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, je commence à avoir une garde-robe. Enfin, garde-robe, vous comprenez le message. Hein ? Je ne sors jamais nu. J'ai toujours quelque chose. Mais je me souviens quelquefois, c'est terrible pour un jeune pasteur, hein, pour celui qui prêche au départ, en disant, mais qu'est-ce que je veux dire ? J'ai plein d'idées en tête, mais il n'y a rien qui accroche. Alors c'est assez paniquant. Moi, ça m'est arrivé d'arriver sur l'estrade en ne sachant pas ce que j'allais dire. J'entendais les cantiques qui passaient les uns après les autres, et je dis, mais Seigneur, comment je veux faire ? Et au dernier moment, une pensée vient, d'inspiration, voire même de révélation. Je prends un texte dans la Bible, sans note, rien du tout. Malade. Moi, ça m'est arrivé une fois à Saumur. Hein. J'étais alors dans un état catastrophique. Franchement, je peux dire, problème au niveau thyroïdien. Et je vomissais. Excusez-moi, je suis un peu trivial, mais je vomissais dans l'évier avant de monter sur l'estrade. Et à un moment donné, en me dirigeant, j'ai eu une pensée. J'avais la Bible devant moi, sans aucune note, et il y a un texte qui m'est venu. Alors là, à ce moment-là, ça coulait comme un fleuve. Et les gens sont venus me voir en disant, mais c'était le message que j'avais besoin d'entendre ce matin, alors que j'étais malade, moi. Il faut avoir le courage de pouvoir se lancer et de rompre les amarres, là, en ce moment. Parce que j'aurais pu dire, mais moi, je rentre chez moi à Angers. on a fait des belles expériences. Alors Jérémie, j'ai formé sur vous, j'ai formé sur toi, et tout le reste on vient de le lire, au sens de notre existence et de son avenir pour un but déterminé, nous l'avons dit, encore caché, parce que nous ne sait jamais les choses à l'avance. Et c'est ça justement, quand Abraham est parti de... Comment s'appelle son pays là, le pays de... Oui, de Mésopotamie, voilà. Eh bien, Dieu lui a dit, tu pars, mais il ne lui a pas dit où il allait. Et il ne lui a pas dit de A à Z quel serait l'itinéraire. Il n'y avait pas de pancarte à l'époque. Il n'y avait pas de, comment ça s'appelle là, dans les voitures, GPS. Il n'y avait pas de GPS. Jour après jour, Abraham, il s'est dit, mais où tu m'emmènes? Et ça durait un voyage qui a duré, parce qu'il y avait quand même 500 à 600 ou 700 kilomètres entre la Mésopotamie. Et puis là où il est arrivé, c'était à Bethel, je crois, non? Enfin bon, peu importe, aux chaînes de Morée, je crois. Eh bien, c'était pas de savoir ce qu'il allait voir et puis de regarder de temps en temps en disant on va passer par ici, on va passer par là. Parce qu'il pensait peut-être aller dans un terrain où il n'y avait personne, mais il y avait déjà un peuple là, dont on parle encore aujourd'hui des conflits qu'il y a au Moyen-Orient. Bon, c'est comme ça. Mais il a voulu faire la tentative de vouloir aller quelque part sans la volonté de Dieu en Égypte. Vous savez comment ça s'est passé avec sa femme? Eh oui! Il a failli se faire piquer sa femme, hein. Se faire voler sa femme, et puis il est revenu. Enfin, quelle histoire, hein. Parce que quand on veut faire les choses par nous-mêmes charnellement, eh ben on est sûr de perdre. Ça, c'est clair. Alors, notre existence, notre avenir, dans un but souvent caché, dissimulé, on ne le connaît pas. Et ça s'appelle d'un nom que vous connaissez. C'est marcher par la foi. Seigneur, où tu me conduis? Te tracasse pas, je te conduis. Laisse le reste. Tu marches. Quand le doute nous guette, et le doute, ça peut nous arriver tous les jours. Même le plus spirituel peut avoir des doutes. Et je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est que le doute, il n'est pas négatif. Au contraire, c'est une école pour nous monter un peu plus haut si nous faisons confiance à Dieu et descendre un peu plus bas si on est incrédule. C'est ça le but, hein. Quand il y a quelque chose qui nous accable dans notre vie et que nous n'avons plus de ressort psychologique, je veux dire moral, quand tout ça se brouille d'une perspective, on ne sait plus où on va. Ça nous est arrivé, hein, d'être dans le grand brouillard spirituel et de ne pas savoir, se retrouver seul. Ça peut arriver à travers les échecs, à travers quand on prend de plein fouet un découragement parce qu'on s'attendait à autre chose. Quand on est dans le constat d'une faillite, par exemple, quand on pense qu'on est au mauvais endroit en disant « j'aurais dû être autre part », quand on pense qu'on est arrivé trop tard, jamais trop tôt, hein, mais trop tard, après, auprès de personnes malveillantes qui disent du mal dans votre dos, qui sont là méchants, et vous savez les causes de la jalousie, souvenez-vous-en, mais vous le savez pertinemment parce que vous êtes certainement passé par là, les causes de, finalement, eh bien, de ce genre de malveillance, c'est la jalousie des hommes. Si vous voulez vous inspirer, regardez le monde politique. Hein ? Moi, ça me fait rire doucement, enfin, doucement, façon de parler. Mais quand je vois qu'on est tous auprès de celui qui a l'autorité, moi, je ne suis pas ni pour l'un ni pour les autres, mais en disant, si j'étais à sa place, je ferais encore beaucoup mieux. Eh bien, ça, ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. Parce que le monde est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Ça, c'est vrai. Penser que rien ne peut arriver, penser que rien ne peut dévier ou annuler le plan parfait de Dieu si vous restez en Dieu, dans la foi, et que vous, véritablement, voulez vivre selon ce que Dieu vous a dit dès le départ. Je connais les projets que j'ai formés sur vous pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Je dois m'en souvenir tous les jours. Il y a des temps de pluie, il y a des temps de neige, il y a des temps de verglas, vous savez ce que ça veut dire le verglas, hein. Et puis il y a des soleils radieux. Des moments où... Parce que ça existe pour tout le monde. Et ça, c'est vrai. Ouais. Pensez que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Et quelquefois, nous nous posons des questions en disant « Mais si j'avais choisi une autre voie ?» Si j'avais choisi une autre direction, J'étais différent. Alors, ne faut pas copier sur les autres. Ça, je veux dire que quelquefois, c'est mortel de copier en disant « Moi, je vois, c'est un homme spirituel, je voudrais bien être comme lui. » Eh bien, ça, c'est faux, parce que vous êtes ce que vous êtes, et lui, il est ce qu'il est. Tout simplement. Je voudrais vous le raconter, peut-être encore une fois de plus, parce que c'est un petit peu ma marotte de raconter des histoires. Il y avait un jeune stagiaire qui travaillait avec un pasteur, et le pasteur était chauve, et le stagiaire avait des cheveux. Et le pasteur, quand il prêchait sur l'estrade, il avait ce tic, il avait toujours ce mouvement. Il était chauve, hein, comme ça. Eh bien, figurez-vous que le stagiaire, eh bien, était toujours en train de se frotter les cheveux comme ça. Alors, c'était quand même assez paradoxal que celui qui n'avait pas de cheveux était toujours en train de se... Et puis l'autre, il faisait la même chose. L'imitation, c'est pas bon, hein. Parce que bon, c'est copie conforme, mais on n'est pas copie conforme. On est différents les uns les autres. Voilà, tout simplement, il faut l'accepter. Hein. Alors, comment casser les barreaux de nos prisons ? C'est un petit peu la leçon que l'on peut tirer. De nos prisons et s'enfuir loin pour espérer une autre vie. Quelque chose à refaire, mais non, on ne va pas refaire, on est ce que l'on est. Et on n'a pas à regretter le chemin par lequel on est passé, les choix que nous avons faits. Parce que je voudrais vous dire, même quand on fait des mauvais choix, Dieu est capable de les changer en bien.
Amen.
Et ça, c'est pas vous. C'est pas nous qui pouvons le faire. C'est Dieu qui est capable. Et d'espérer finalement eh bien, une autre vie et de repartir à zéro. Comme on le chante, hein. Tu peux repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Mais mets ta confiance en Jésus. Parce que lui, il est capable de gommer nos erreurs. Il est capable de mettre là, de finalement d'oublier tout ça, puisque nos péchés, il va les évincer. Ouais. Et il est capable même de faire du neuf avec du vieux. Vous en avez la preuve. Bon. Comprenez? Et la barbe d'Aaron, ça peut pousser encore, hein. Et elle ne sera pas noire, celle-là, elle sera blanche. Hein. Enfin bon, je vous fais rire un petit peu, mais... Oui. Quand tout nous semble usé, et non, c'est Dieu qui nous renouvelle. Hein. Ça, c'est certain. Alors, est-ce que nos propres efforts seraient suffisants dans tout ça? Non. Il faut la grâce de Dieu. À tout âge, dans toute situation, nos forces et nos ambitions. Et Jésus nous affirme ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le monde fonctionne en disant on n'a pas besoin de Dieu, ni Dieu, ni diable. Ouais, et ben on voit où il en est rendu le monde. Hein. On ne sait pas où on va véritablement. Quand je parlais des volcans, on va en avoir. Hein. D'une manière ou d'une autre. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça fait sourire les gens. Ça fait sourire le monde. Il est hilar avec des choses comme ça. Mais Jésus, lui, en silence, est en train de faire son œuvre pour nous montrer l'incapacité des hommes et la force des croyants. Le surnaturel que les croyants peuvent toucher. Parce que notre vie, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté, de toute manière. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, hein, faut pas l'oublier. Je termine. Dieu a préparé quelque chose, ne l'oublions jamais, et même à partir de nos erreurs, si vous regrettez peut-être certaines choses, même à partir de nos erreurs, nos semblants d'impasse, nos fausses routes, vous savez, ça peut arriver, hein, nos fautes inavouables qui font honte, il est capable de changer. Combien de personnages qui étaient juste à la limite, hein, ouais, morale même, comment Dieu les a pris? Moi, je pense à David et à d'autres. Comment il en a fait des rois? Comment il en a fait des prophètes? Comment il en a fait des hommes d'exception, des combattants, des vaillants, des vainqueurs, des héros également? Alors c'est vrai, la pensée que nous avons entendue par le Saint-Esprit, déposons sur l'autel, c'est encore le moment, l'autel de nos illusions, mourir à nos illusions, de savoir qu'on peut encore faire quelque chose. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du bricolage, hein. Loin de là, hein. Car jamais rien n'est perdu, jamais rien n'est inutile, et en vain pour Dieu. Reprenons courage. Et je finis sur un texte qui est celui dans Jacques. Écoutez, à vous qui dites, c'est chapitre 4, verset 13, à vous qui dites, c'est vous qui le dites, c'est l'homme qui le dit, Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Pourquoi pas ? Plus ou moins. Nous trafiquerons et nous gagnerons, parce que c'est toujours la tour de Babel. Nous gagnons. Nous gagnons le ciel. Ça, Babel. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, est-ce qu'il y a un devin ? Est-ce qu'il y a un astrologue, là, ici, au milieu de nous ? Non, hein, je pense pas. Ça fait pas partie de sa zone d'épanouissement, non ? Message de l'Évangile, non ? Moi, je ne sais pas ce qui sera demain. Je sais que je vais chez le dentiste. Ça, je le sais. Parce que bientôt, je ne vais plus avoir de dents. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Oui, oui, on doit se le poser à la suite du message. Qu'est-ce que ma vie ? Vous êtes une vapeur. Vous savez, comme la cocotte minute, là. Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, hein, ça c'est Jacques qui le dit, vous devriez dire, vous devriez vous pénétrer de cette parole. Quand Dieu nous dit, je connais, j'ai formé sur toi. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Ah tiens, voilà la notion de la volonté de Dieu qui doit m'inspirer par la prédication que j'entends, par la parole que je lis, par là les indications subtiles du Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma vie, à travers les événements visibles et invisibles, que je pressens, les invisibles naturellement, à travers finalement ma conscience. Alors, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous vivrons, c'est pas nous mourrons. Nous mourrons, c'est pour les incrédules, c'est pour les incroyants, c'est pour les révoltés, c'est pour tous ceux qui sont contre la vérité, contre la vraie liberté, contre ceux qui ont crucifié Jésus hier et qui le crucifient encore aujourd'hui. J'ose le dire, je ne fais pas d'anti-catholicisme primaire, je tiens à vous le dire, mais vous savez que le monsieur de Rome est venu à Marseille la semaine dernière. Ben moi, il y a une chose, et on est venu me le dire aussi. Il a parlé de la bonne mère, eh ? Sur la Canebière. Non, elle est au-dessus. Mais il n'a pas prononcé le mot de Jésus. Ou très peu. Alors qu'il prêche l'Évangile. Ben, que l'Évangile, c'est Jésus. C'est pas la bonne mère. Et ça, moi, j'étais particulièrement choqué. Pour celui qui se veut être le chef des croyants sur la terre. Et on est venu me le dire dans la semaine, on m'a dit, Alain, t'as remarqué ? Parce que j'ai pas suivi le... Moi, je suis pas allé à Marseille, hein. Mais j'ai suivi les choses. C'était... Bon, il y avait un thème de fraternité, un thème charitable. Mais écoutez, c'est pas Marie qui sauve les hommes. C'est Jésus à la croix, le Rédempteur. Et ça, il faut tenir ferme là-dessus, parce qu'on est en train de dériver, même chez nous. Hein. Parce que c'est du sentimentalisme, c'est une fausse tendresse. Parce que celui qui est ressuscité, c'est Jésus. Et il est vivant. Et il nous en donne ses preuves par la parole. Vous allez me dire que je suis un peu raide, hein, quand même. Je suis rigide. Hein. Non, non, mais moi, je défends Jésus, parce que c'est Jésus qui m'a appelé. C'est pas Marie. Hein. J'ai déjà une Myriam, alors. Non, vous n'avez pas compris, là.
Elle est drôle, c'est la même origine.
Oh. Elle est merveilleuse, ma femme. Alors, mais maintenant, vous vous glorifiez dans des pensées orgueilleuses. C'est mauvais, c'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui qui sait faire le bien, bien qu'il le fasse. Et celui qui commet le mal commet un péché. Eh bien, nous, le péché, ce n'est pas de ceci et cela, comme nous avons l'habitude d'en entendre et d'être abreuvés tous les jours, mais le péché, c'est l'incrédulité. De ne pas croire que quand Jésus nous dit « J'ai formé sur vous des projets d'espérance et de paix pour que vous ayez un avenir et de l'espérance », eh bien, croyez que Dieu va le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Amen.
On va prier quelques instants, d'accord ? Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce message, il est ce qu'il est, c'est vrai. Mais moi, je veux te rendre grâce parce que nous croyons, Père éternel, que ce n'est pas l'histoire de tous les hommes. C'est l'histoire de beaucoup d'hommes. C'est l'histoire des enfants de Dieu. C'est l'histoire des chrétiens. Et puis, Seigneur, c'est mon histoire à moi. Tu m'as mis à part pour être ce que je suis modestement, petit, infirme, quelquefois en me traînant avec toutes sortes de problèmes, de moi-même, pour moi-même, mais aussi pour les autres. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, merci de m'avoir parlé, Seigneur, dans ce temps ancien, et de m'avoir mis lorsque tu m'as appelé dans ma jeunesse. Et tu m'as donné en effet de voir, tu m'as associé, Seigneur, avec quelqu'un qui m'a accompagné. Tu m'as associé avec tant de gens qui sont devenus mes frères et mes sœurs, qui sont devenus de ceux qui aiment Jésus et de ceux qui servent Jésus encore aujourd'hui. Merci, merci Seigneur, parce que nous voyons que ton Église, elle est vivante, tant qu'elle reste attachée à la personne de Jésus, à son œuvre et à sa parole. Merci, mon Dieu. Amen.